VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal RCA. Un casque bleu marocain est toujours porté disparu ce mercredi dans le sud-est du pays après l'attaque d'un convoi de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, par un groupe armé lundi soir qui a coûté la vie à 4 Cambodgiens, dont 3 sauvagement assassinés, selon le directeur de la communication de la mission onusienne, Hervé Verhoussel. Un groupe de civils centrafricains est actuellement en négociation avec les assaillants pour retrouver le soldat marocain disparu après l'attaque du convoi à 470 km à l'est de Bangui, près de la frontière avec la RDC, a indiqué la MINUSCA à l'AFP. Les 3 casques bleus cambodgiens mentionnés par Hervé Verhoussel ce mercredi avaient été appréhendés par les assaillants lors de l'attaque et ils ont été retrouvés morts par la suite, a souligné la MINUSCA. En RDC, la formation de nouveau gouvernement mardi sans la plateforme de rassemblement d'opposition dirigée par Félix Tshisekedi a raidi les positions déjà tranchées sur la crise politique dans le pays. La coalition des Congolais pour la transition, par exemple, ne se reconnaît pas dans le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala. Son président, Emery Damien Kalouira, réclame une transition. On l'écoute.
Les Congolais n'ont pas besoin de voir M. Kabila pour se mettre à un spectacle de gouvernement qui ne dure pas. Vous voyez celui de Badi Banga qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre de corruption des masses en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. RDC toujours, la dépouille mortelle du défunt chef de l'opposition Étienne Tshisekedi ne sera plus ramenée à Kinshasa ce vendredi 12 mai comme prévu. Son parti, l'UDPS, annonce le renvoi du rapatriement du corps à une date ultérieure après une vive tension et des incidents ce mardi à son siège dans la commune de Limété à Kinshasa. Des incidents que ce parti d'opposition condamne fermement et impute au pouvoir de M. Kabila. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans un communiqué rendu public ce mardi 9 mai, peu avant minuit, l'UDPS condamne la brutale fermeture de sa permanence par des agents de l'ordre. Le parti dénonce qu'il qualifie de cabale montée par le pouvoir en place pour empêcher l'arrivée à Kinshasa de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi et tient pour responsable le pouvoir de toutes les pertes tant en vies humaines qu'en biens matériels avant d'exiger la libération de son siège national ainsi que la restitution sans délai de tous ses biens. Ensuite, le parti annonce, au nom de la paix et après concertation avec la famille biologique de son défunt président, la décision de renvoyer à une date ultérieure le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, initialement prévu le 12 mai courant. Quelques heures avant la publication de ce communiqué, la ville de Kinshasa, à travers une correspondance signée par son gouverneur, rejetait déjà la demande de l'UDPS d'inhumer Étienne Tshisekedi au siège de son parti dans la commune de Limété où des travaux pour ériger un mausolée étaient déjà en cours. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Kenya, les États-Unis ont suspendu une partie de leur aide directe à Nairobi en raison d'accusations répétées de corruption et de mauvaise gestion. Il s'agit d'un montant de 21 millions de dollars qui devait aller au ministère kenyan de la Santé. Jacques Aristide.
C'est l'ambassade américaine à Nairobi qui a annoncé cette suspension pour une période indéterminée. La somme a fait partie des 650 millions de dollars d'aide sanitaire annuelle au Kenya. Le ministre de la Santé a confirmé la décision qui survient après un scandale présumé de corruption portant sur une somme de 49 millions de dollars l'an dernier et une grève de médecins et d'infirmiers qui a duré 3 mois. Mais Cléopa Mailou a assuré que cela ne touchait pas les services de santé les plus essentiels. L'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, ne paiera plus notamment pour des rencontres et ateliers et des voyages à l'étranger. La décision américaine intervient à peine 3 mois avant la présidentielle du 8 août au Kenya.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise migratoire. Au large de la Libye, près de 200 personnes sont toujours portées disparues suite au naufrage de 2 embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre l'Europe. Et en territoire libyen même, près de 8000 migrants sont actuellement dans des centres de rétention. L'OIM, l'Organisation pour les migrations internationales, aide dans l'organisation du retour des intéressés dans leur pays d'origine. État des lieux avec Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève, au micro de Solange Niamoulissa.
Ces migrants dont on parle et qu'on dit qu'ils sont portés disparus, bien évidemment, pour la plupart, malheureusement, on ne retrouvera jamais les corps. Il s'agit de statistiques qui sont basées sur les témoignages des rescapés, et nous savons que ces 200 morts sont probablement disparus à jamais. Cette véritable crise humanitaire qui se déroule sous nos yeux en Méditerranée, il faut rappeler que depuis le début de l'année, ce sont près de 50 000 personnes qui sont arrivées en Europe et dont la majorité en Italie. Ça représente une véritable augmentation par rapport à la même période l'année dernière, aussi bien en nombre d'arrivées qu'en nombre de morts, avec plus de 1 300 personnes qui ont perdu la vie depuis le 1er janvier.
Aujourd'hui, on parle de 7 000 à 8 000 migrants retenus dans les centres de détention en Libye. Combien des migrants sont retournés depuis le début de l'année et combien sont sur la liste d'attente ?
Écoutez, vous savez, l'OIM estime à entre 500 000 et 700 000 les migrants qui sont présents en Libye actuellement, depuis le début de la crise. Bien évidemment, toutes ces personnes ne sont pas des migrants potentiels avec, en partance pour l'Europe, c'est évident, mais beaucoup sont coincés dans ces centres de détention. Pour nous, il est fondamental de pouvoir offrir une alternative à toutes ces personnes qui sont bloquées dans le pays, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas prendre le risque de traverser la Méditerranée et qui n'ont plus les moyens, aussi bien physiques que financiers, de repartir chez eux. C'est pourquoi l'OIM organise une assistance au retour volontaire, et dans le cas de la Libye, il s'agit davantage de retours humanitaires, pour tous ceux, des migrants en Libye, qui désireraient repartir chez eux. Depuis le début de l'année, nous avons aidé l'aide au retour de quelques centaines de migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest.
Quelle est la situation de ces migrants dans les centres de détention ?
Les conditions de vie dans ces centres de détention sont parfois alarmantes, c'est vrai. L'OIM a eu accès à quelques-uns de ces centres. Bien évidemment, la situation dépend aussi de la stabilisation politique et sécuritaire du pays. Et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement libyen reconnu pour pouvoir améliorer ces situations-là. Mais entre-temps, nous essayons de procéder et un maximum de retours humanitaires possibles.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM, jointe à Genève par Solange Niamoulissa. Actualité américaine maintenant, grosse surprise hier à Washington, le président Donald Trump a limogé James Comey, le directeur du FBI, la police fédérale américaine. Dans une lettre d'une rare candeur, M. Trump a dit qu'il mettait fin aux fonctions de M. Comey avec effet immédiat, ajoutant que ce dernier n'était pas capable de diriger de manière efficace le FBI. De façon générale, les parlementaires républicains approuvent la décision du chef de l'exécutif, mais leurs collègues démocrates sont plutôt contre la révocation du directeur du FBI, Jean-Roger Bion.
Les raisons de son limogeage ont été données dans 2 lettres séparées du ministre de la Justice Jeff Sessions et de son adjoint Rod Rosenstein. En substance, ils accusent M. Comey d'avoir commis de sérieuses erreurs dans la manière dont il a traité les conclusions de l'enquête sur les emails privés de Hillary Clinton, l'adversaire démocrate de M. Trump lors de la présidentielle de novembre dernier. En d'autres termes, et selon M. Rosenstein, l'ex-directeur du FBI avait usurpé les pouvoirs de la ministre de la Justice quand M. Comey a conclu que Mme Clinton n'allait pas être poursuivie en justice. Les observateurs se demandent pourquoi le président Trump a décidé de ne sévir que maintenant, alors que les reproches faits à M. Comey remontent à la campagne de l'année dernière. La décision de M. Trump a surpris plus d'un à Washington et au Congrès, le républicain Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, s'est dit troublé par le moment choisi et les raisons données pour le limogeage de M. Comey, qualifiant son départ de perte pour le FBI et la nation. Côté démocrate, le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré avoir dit au président qu'il commettait une grosse erreur en limogeant M. Comey, alors qu'il y a différentes enquêtes liées à la campagne de M. Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.